Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au podcast de la rédaction du Game Info, et salut à toi TH.
Bonjour mon Tian, comment vas-tu?
Bah ça va, on passe bien le bonjour à ce sale lâcheur de Mamie Amini. Est-ce qu'on balance à TH?
Bah vas-y, fais-le.
Ouais bon, pour tout vous dire, Monsieur Mamie Amini nous a laissé tomber pour jouer à Diablo 3, hein. C'est scandaleux, monsieur, c'est scandaleux. Eh bien, du coup, comptez sur nous, très cher lecteur. On va bien lui mettre la pression pour que, il nous fasse un test en bonne et due forme de Diablo 3 avec toutes les classes du jeu, etc. Hein.
Non, mais c'est scandaleux. Nous, on bosse et monsieur, il se permet de jouer, non, mais.
Franchement. Il demande à jouer, franchement. honteux. Donc, nous allons commencer cette semaine d'actualité. Je vais commencer par une soirée avec Monsieur Hideo Kojima.
Ouh là là.
Eh oui, car cette semaine, je faisais partie des VIP, n'est-ce pas?
Oh yeah.
J'ai été à cette fameuse soirée du mercredi au MK2 Bibliothèque. Bah écoutez, j'ai pu assister à tout ça et je vais vous partager mes impressions. Donc bon, très honnêtement, on n'a pas appris grand-chose. Hein. ATH, tu as pu voir les impressions de nos confrères, n'est-ce pas? Alors, est-ce que comme moi, tu penses que franchement, il n'y avait pas grand-chose?
Bah d'après ce que cette personne, dont je ne citerai pas, a mis sur son blog.
Mais si, cite, si, justement, il faut toujours sourcer, mon cher ami, si tu cites quelqu'un, on y va, là, on fait la pub, de toute façon, il n'y a pas le CSA, donc...
Bon, bah, ok, bah, ça va être... c'est une personne qui travaille chez Gamerside, je sais pas si vous connaissez, Il s'est rendu à cette soirée, donc il a mis des petites photos et a donné ses impressions, il a même dit qu'il avait rencontré Monsieur Hideo Kojima, s'il vous plaît, in the toilet.
Ouais, c'est vrai, en fait, si vous étiez posté en embuscade dans les toilettes, à un moment donné, il y allait, donc vous pouviez choper Kojima dans les toilettes, c'était super. Très honnêtement, effectivement, on a rien appris du tout. Enfin, non, j'exagère. On a appris, en gros, que leur nouveau moteur, là, le Rogue Engine, on aura des news en juillet. Super. Et sinon, Metal Gear Solid Rising, on aura une démo à l'E3. Et à part ça, peu de zob. Ah si, on a appris que Kojima était confiant dans l'avenir du cloud gaming. Bon, au moins ça fera un différent entre moi et lui, n'est-ce pas?
Et moi aussi.
Enfin non. Très honnêtement, je pense que ça va marcher, mais moi c'est pas un truc qui me fait rêver, quoi, on va dire.
Ah, moi non plus.
Il avait clairement des petites étoiles dans les yeux quand il parlait de ça, et moi j'étais là... Ouais, d'accord, super. N'est-ce pas?
Mais ferme-la, va faire notre Metal Gear.
À part ça, bon, c'était une soirée très sympathique, hein, je veux dire, il nous a raconté sa vie, c'est Shinji Kawa, je crois, c'est ça, qui était là aussi, qui nous a fait, alors ça, là, c'est le dessinateur en moi qui parle, qui a été très impressionné par le dessin qu'il nous a fait en direct pendant la conférence. Finalement, c'était même pour moi le moment le plus marquant de la conférence. Parce que franchement, le mec, c'est juste un tueur, quoi. C'est son niveau en dessin est juste. Oh.
Et qu'est-ce qu'il a dessiné? Il a dessiné quoi? Snake?
Ouais, c'est il a dessiné un Snake. Et franchement, il était juste. C'est une grosse brutasse, une grosse brutasse, le mec, quoi. En dessin. Oh. C'est le dessinateur qui était en moi et s'est extasié devant ce dessin, c'était magnifique.
Et d'ailleurs, c'est lui qui a fait ce dont je vous parlais la semaine dernière dans le podcast et, sur Metal Gear Solid Digital Graphic Novel. C'est lui qui a fait les dessins qu'on voit dans le jeu, on va dire entre guillemets. Bah, c'est lui qui a fait tous les dessins, donc ils sont magnifiques. Donc je te conseille de si tu as une PSP de regarder.
Ouais, j'y jetterai un coup d'œil. Donc bon, globalement, moi si tu veux, j'ai été assez gêné dans cette soirée parce que, comment dire, j'ai trouvé la soirée intéressante parce que bon, il a parlé de son passif, etc. Comment il en arrive à faire du jeu vidéo. Bon, d'un autre côté, je me sentais pas tellement à ma place parce que, franchement, c'était vraiment une soirée pour les fans. Et bon, moi, on va être très honnête, hein, je suis pas non plus un fan absolu des Metal Gear, mais d'un autre côté, je me demande vraiment si les fans s'y sont retrouvés pendant cette soirée, parce que bon, certes ils ont vu leur idole, mais à côté de ça, j'ai tendu un peu l'oreille, et apparemment il y avait plein de choses que les fans savaient déjà, donc j'ai pas l'impression non plus que ils aient appris énormément de choses, quoi. Quoi qu'il en soit, une soirée 25 ans anniversaire très sympathique. Bon, par contre, messieurs de Konami, s'il vous plaît, à la prochaine fois, quand vous nous envoyez les invitations, soyez honnêtes, quoi. Ne nous dites pas qu'il va y avoir des annonces alors qu'il n'y en aura pas, quoi. Parce que bon, très honnêtement, je me doutais qu'il n'y en aurait pas, mais ça faisait un peu bon. Ouais, mais vous inquiétez pas, il y aura des annonces et tout. On va parler de Beyond Good and Evil 2. Alors, Beyond Good and Evil 2. Un jeu que j'attends énormément personnellement parce que j'ai beaucoup aimé le premier, on va dire, n'est-ce pas? Et il y a une nouvelle vidéo qui a leaké cette semaine. Alors bon, une vidéo qui fondamentalement ne nous apprend pas grand-chose de neuf par rapport aux anciens leaks. C'est toujours, vous savez, ce niveau qui se passe dans une ambiance un peu indienne et tout. Avec une musique à la Bollywood, enfin assez space, on va dire. Donc rien n'a sous le soleil, mais en tout cas ça a le mérite de nous confirmer que le jeu est toujours dans les tuyaux, n'est-ce pas, TH?
Bah oui, donc le jeu est toujours sur les tuyaux comme tu le dis, mais on ne sait pas déjà sur quelle console il est développé. Ce qui est intéressant, donc c'est Michel Ancel qui est aussi le papa de la série Rayman, nous dit que donc que le jeu est à un stade créatif avancé en ce moment et qu'ils sont principalement focalisés sur le jeu pour faire en sorte qu'il soit aussi bon que possible. Donc c'est tout ça à son honneur.
Ouais. Bon, quoi qu'il en soit, enfin, je vais te demander, toi tu ne connais pas le premier épisode, on est d'accord, hein. Enfin, tu connais deux
Non,
noms,
en
mais
fait
tu n'y as
moi,
pas joué.
voilà, en fait moi, ce jeu, le premier en fait épisode, il m'avait intéressé, mais j'avais plusieurs retours de gens qui ont joué, qui m'avaient dit que le jeu était bon, mais qui était beaucoup trop court, donc ça m'a un peu rebuté dans mon achat.
Et je voulais te demander, justement, toi qui as un regard neuf, sur le plan de l'esthétique, qu'est-ce que tu penses de ce Beyond Good and Evil 2? Parce que moi, je t'avoue qu'il est joué en premier et qui est très attaché au style cartoon du premier épisode. Je suis toujours un peu choqué par ce style un peu réaliste, je trouve, qui pour, enfin, je trouve vraiment ça colle pas. Pour moi, ça colle pas vraiment avec l'ambiance de Beyond Good and Evil, quoi.
C'est vrai que le 1, il avait un univers vraiment très accrocheur, assez féerique, tu sais, comme cartoon, et ça avait vraiment une identité propre au jeu. Je trouvais ça super. Maintenant, le 2, sur le peu d'images que j'ai pu voir, ça change totalement ça change un peu d'univers. C'est un peu dommage parce que les gens s'attendraient peut-être s'attendraient peut-être vraiment à un jeu dans le même esprit que du premier, d'un point de vue graphique. Et là, ça change, donc je sais pas vraiment ce que ça va donner, mais en tant que néophyte de la série, je peux pas vraiment dire si je suis pour ou contre.
Ça ne te dérange pas outre mesure non plus, quoi.
Si, ça me dérange un petit peu, parce que quand tu vois des personnages avec des têtes de cochons, et enfin des personnages, des cochons qui sont humanoïdes, et qui sont dans un univers à peu près un simili réaliste, ça me dérange un petit peu quand même.
Ah, quand même.
Et surtout, sur ce jeu, Michel Ancel a dit que apparemment le jeu utiliserait un système de caméra dynamique. En fait, pour apporter, en fait, comme si on était suivi par une équipe de journalistes. Et ce qui est intéressant, donc, c'est que il dit que il s'inspirait un peu de Mirror Edge et de Kellen Lynch 2, qui utilisaient à peu près ce même système, mais qui serait totalement différent. Il s'inspire juste à peu près de la mise en scène, en fait, on va dire.
Enfin,
Mais
je vois pas trop ce qu'il veut dire par rapport à Mirror's Edge, parce que Mirror's Edge c'est la première personne, donc bon, la caméra.
ouais, mais tu sais que dans Mirror Edge, je sais pas, quand comment ça s'appelle, Fate saute, et bah, donc, tu vois, la caméra fait droite gauche,
Le body awareness, quoi.
voilà. Et dans Kenan Inch 2, tu sais, quand tu cours, t'as cette caméra d'ailleurs qui bouge dans tous les sens, qui est absolument gerbante. Moi j'ai joué, ça m'a donné des nausées, je te jure. Il dit que c'est différent, donc on verra bien, mais j'espère que ça sera très bien utilisé.
Ah, parce que autant je trouve que ça passe bien la première personne, autant la troisième personne, je trouve que ça fait vraiment bizarre, tu vois, d'avoir une caméra vue derrière qui gigote dans tous les sens et tout. C'est vraiment, enfin, c'est assez particulier, quoi, quand même, hein. Ensuite, la Xbox 360 par abonnement, c'est maintenant, n'est-ce pas? Bah, écoute, je sais pas ce que t'en penses. Moi, ça me laisse un peu perplexe cette offre. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, en gros, Microsoft fait une formule un peu comme les téléphones. Vous payez votre 360 moins cher et vous payez un abonnement pour 1 an, je crois, c'est ça. Encore mieux.
Deux ans.
Déjà, je trouve ça bizarre qu'ils fassent ça à la fin de vie, en fin de vie de la console. Premier point. Et second point. Enfin, là, c'est avis très personnel, hein. Déjà que j'ai enfin pu me débarrasser de ces formules d'abonnement que je ne supporte pas sur mon téléphone, alors me les taper pour mes consoles, hors de question, quoi. Moi, je sais pas ce que t'en
Bah,
penses, mais moi, c'est un truc qui m'insupporte avec les téléphones. Enfin, les opérateurs qui te tiennent captif comme ça et tout, t'es obligé de te taper un abonnement où finalement, au final, tu payes beaucoup plus cher que ce que t'aurais payé si t'avais pris le téléphone seul. Franchement, moi c'est pas des trucs qui me font rêver, ça.
moi non plus, je te rejoins tout à fait sur ton point de vue, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais ce qui est important à noter, c'est que aux États-Unis déjà. Et donc, voilà, pendant 2 ans, vous devez payer un abonnement de 15 euros pendant 2 ans par mois. Et la console est vendue en fait 99$. Donc, vous faites 15 fois 24. Comme tu as dit, ça fait vraiment le prix de la console, il va vraiment exploser. Et surtout, ils font ça en fin de vie de la console.
Oh non, mais en plus ils font ça aux États-Unis, c'est-à-dire l'endroit où la console c'est le plus vendu, tu vois. Franchement, moi je sais pas, j'ai pas compris là. Bon, on va maintenant parler de la PlayStation Vita. On a souvent reproché à la PlayStation Vita de ne pas avoir assez de jeux, n'est-ce pas? Donc Sony essaie de remédier à la situation avec Soul Sacrifice. Alors pour vous donner une idée de ce que c'est, en gros, c'est un mix entre Dark Souls pour l'ambiance et Monster Hunter pour le gameplay. Donc bon, moi je sais pas ce que tu en penses, ATH. En tout cas, l'ambiance que j'ai vue, ça a l'air assez glauque. Moi, ça me plaît bien. J'ai bien envie de tester. Et bon, écoute, vivement la sortie, hein.
Bah, comme tu dis, vivement la sortie. C'est un jeu en tout cas qui a une très très grande équipe de développement derrière lui, notamment alors Kenji Inafune qui a travaillé sur la série des Mega Man et Dead Rising. À la bande son, on aura Wataru Okonyama, donc qui a travaillé sur les musiques de Resident Evil 5, et Yasunori Mitsuda qui a donné les bandes originales de Chrono Trigger ou de Xenogears.
Bref, on va dire qu'il y a du lourd, quoi. Donc bon, franchement, ils ont l'air d'avoir mis les moyens. Bon, pour le moment, il ne semble pas qu'on ait vu de vidéo de gameplay. Moi, j'ai juste vu un espèce de teaser, mais à part ça, on a vu juste des screenshots. Et ma foi, les screenshots avaient l'air pas trop mal. Et d'ailleurs, par contre, je voulais nuancer un peu. Certes, ça ressemble à Dark Souls, mais les screenshots sont un peu plus colorés que le trailer ne le laissait penser. Donc, ceux qui trouvaient le jeu un peu trop marron, on va dire, ne vous inquiétez pas, le jeu est un peu plus coloré que ça quand même. Alors, mon cher ATH, ça c'est ton moment à toi. Tu voulais nous parler de FIFA 13. Alors, je ne sais pas du tout de quoi tu voulais nous parler, donc, bah écoute, lance-toi, mon ami.
Bah alors, FIFA 13, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne le savent pas et qui ne sont pas
Oh
d'autre
non, ATH, sérieux, soyons sérieux là, tu veux nous expliquer le pitch de FIFA 13
Alors, le scénario... Donc, il y a eu une petite fuite sur les forums de NeoGAF, et quelqu'un qui donc a testé le jeu chez EA Sports n'a pas pu se retenir, et a donc décidé de balancer sur les forums... Toutes les informations de ce qu'il a pu tester sur FIFA 13. Donc, alors, ce qu'on sait, c'est que la physique du ballon sera beaucoup plus difficile à contrôler, notamment à grande vitesse. Donc, ça va changer un petit peu par rapport à FIFA 12.
Elle avait pas déjà changé dans FIFA 12, justement?
Si, ça avait un petit peu changé parce qu'en fait, dans les précédents FIFA, dans le 11, le 10, etc., on dirait c'était vraiment par rapport à PES, on dirait vraiment tu jouais avec un ballon de plage. C'est-à-dire quand tu tirais, la balle faisait des effets un peu à s'envoler très facilement en fait en l'air. Donc voilà, dans FIFA 12, elle avait un petit peu été améliorée.
Donc là, c'est une amélioration bienvenue, j'ai envie de dire.
Ouais, parce que il faut vraiment dans FIFA 13, moi c'est ça qui me dérange un petit peu, c'est que pendant enfin, la série FIFA, c'est parce que je sais pas, une balle qui on sent pas d'impact réel quand tu tires, c'est un peu dommage.
Ok.
Et donc aussi, ce qui va changer, c'est le système de collision. qui avait déjà été mis en place l'année dernière en grande pompe, sera à nouveau peaufiné, donc avec des animations plus réalistes. Le système de dribble aussi sera revu, parce que dans FIFA 12 il avait déjà changé, donc là il rechange en fait un petit peu le système. Moi, ce qui m'avait, j'espère que ça va pas revenir un peu comme dans les anciens FIFA, parce que pour effacer des joueurs dans les anciens FIFA, c'était un petit peu compliqué, on était obligé de vraiment construire. Dans FIFA 12, ça reste, on peut pas dribbler tout le terrain avec un seul joueur, c'est impossible, mais c'était déjà un peu plus facile. Et là, ils ont dit qu'ils allaient changer vraiment le système de dribble pour le rendre, enfin que pour le rendre un peu plus difficile. Donc, pour moi, ça va être un petit peu une marche arrière par rapport à la série. J'espère que voilà, ça va pas revenir un peu comme dans les anciens FIFA, parce que pour moi, ça serait une régression en fait du jeu.
Ok.
Et les coups francs devraient être aussi beaucoup plus techniques, c'est-à-dire que bah à la place de tirer, vous allez faire une passe, ce qui vous permettra d'enchaîner sur une action et peut-être un but si vous êtes bon. Et l'IA aussi devrait gagner en crédibilité. À chaque fois, tous les ans, ils nous font la même chose, l'IA, l'IA, l'IA. Au final, ça change pas d'iota, je trouve.
Tu attendras d'avoir du concret, n'est-ce pas?
Voilà, j'attends d'avoir du concret et pourront dire plus sur cette mouture, vraiment si ça a changé, parce qu'on sait que vraiment les jeux de foot, tous les ans nous sortir un jeu, c'est un peu une foutage de gueule, à pas de nous faire une mise à jour gratuite, ils préfèrent nous sortir toujours moult et moult versions.
Ou alors, je sais pas, moi, même faire une mini extension, tu vois. Les extensions, ça existe aussi, hein. T'es pas obligé de la filer gratos non plus, mais voilà, je pense que entre le truc gratuit et le fait de payer 70 € il y a un juste milieu quand même, quoi.
Ils sont pas cons, hein, parce que une extension à 20 € ou un jeu à 70 € qui va cacher des millions de ventes, parce que quand on sait que FIFA, ouais, c'est des 11 millions d'exemplaires tous les ans, tu vois ce que je veux dire, c'est le
Ouais,
calcul est
c'est
vite fait.
jackpot.
Voilà.
C'est jackpot. Bon, allez, on va passer à Dead Space 3, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui se passe avec Dead Space 3, mon cher?
Alors, Dead Space 3, le jeu qui nous a fait tellement peur sur cette génération.
Ouais, peur, hein, Dead Space, je suis pas tout à fait d'accord. C'est un jeu stressant, mais qui fait face peur.
Sur cette génération, c'est vraiment le seul survival horror quoi qui est digne de ce nom, parce que quand on va Resident Evil,
Amnesia, je le dis encore, je le répète, Amnesia.
oui, mais Amnesia est un jeu pour les joueurs PC.
Ouais, voilà. Non, mais PC is the best, c'est tout.
Ah. Donc en tout cas, Dead Space 3 est annoncé pour le mois de mars 2013. Donc le jeu sera jouable en solo. Ce qu'on apprend sur le jeu, c'est qu'il proposerait une aventure en coopération. Donc pour un survival horror, coopération, moi ça me fait penser à Resident Evil 5. Donc l'aspect survie, d'être tout seul, je risque d'en prendre un petit coup. Je sais pas ce que t'en penses toi pour un
Bah,
jeu.
faut espérer que déjà que y aura pas genre quand tu seras pas à deux, t'auras une IA qui va gérer le truc comme dans Resident Evil 5, parce que sinon ça va pas être possible. Moi, je vous le dis tout de suite. Surtout si elle est aussi conne que celle de Resident Evil 5, il va y avoir un problème, quoi. Mais pourquoi pas. Moi, je pense pour la peur, ça va être un truc qui peut exploiter. T'as un coéquipier avec toi, t'es rassuré et tout. Et puis à un moment, il y a un passage, tac, t'es brutalement séparé de ton coéquipier. Et là, ça peut entraîner un stress, tu vois. Exploiter intelligemment, ça peut être vraiment pas mal. Mais bon, encore une fois, faut que ça soit bien fait, quoi.
D'accord, donc ça, on va dire que ça reste à voir, mais là, je risque qu'il y a un truc qui risque vraiment de faire un petit peu grincer des dents. C'est du point de vue du gameplay. Isaac, donc le héros de Dead Space, pourra désormais se couvrir derrière les murs, les éléments du décor d'ailleurs, et effectuer des roulades de côté. Donc voilà, ça va faire du TPS un peu plus classique qu'il y a sur sa génération. Moi, j'ai envie de dire, quand je joue à Dead Space, c'est pas pour me retrouver dans l'univers de Gears of War.
Ouais, bah, par contre, il va falloir qu'on m'explique comment il fait pour faire des roulades avec l'armure qui se tape, hein, parce que c'est quand même pas, c'est assez lourd, hein, le machin qu'il a sur le dos.
Bah, Marcus Fenix, il y arrive bien, alors pourquoi Dead Space n'y arriverait pas, quoi?
Note bien que je n'ai jamais dit que les roulades dans Gears of War étaient réalistes, hein,
Je ne l'ai
mais
jamais dit non plus. Ce qui a été annoncé aussi, c'est qu'on pourra affronter aussi des humains qui étaient déjà apparus dans Dead Space 2. Donc voilà, donc il y aura encore, on pourrait affronter des humains dans le jeu. Ça a déjà été mis dans le 2, donc voilà, ça va pas, ça va être, je sais pas si ça va être plus étoffé ou bien comment ça va être introduit dans le scénario. Mais cette fois-ci, donc si quand on nous annonce le retour des humains, c'est qu'ils nous annoncent des soldats qui seront en armure et armés de grenades. et qui pourront aussi à loisir se transformer en nécromorphes dès qu'ils en auront envie. Donc les nécromorphes c'est genre les méchants du jeu quoi. Et donc voilà, donc moi je sais pas, quand je joue à un jeu comme ça et que tu lis que tu vas affronter des mecs en armure, je sais pas, ça me fait un petit peu, franchement, Dead Space 3, je le sens pas trop.
Moi, je vous avoue que franchement, Dead Space, pour moi, c'est pas une licence qui fait peur, quoi. C'est stressante à la limite, mais qui fasse peur. Donc bon, ça me choque peut-être moins qu'à TH, mais après, c'est vrai que ce serait dommage, tu vois, de perdre cette ambiance un peu solitaire, franchement, qui est importante dans Dead Space quand même, quoi.
Ah oui, quand même, parce que je sais pas, moi le premier, surtout le 1, c'était le kiff de m'en trouver tout seul, et je sais qu'il y avait des hordes de nécromorphes à les buter. C'était ça que je trouvais vraiment assez intéressant dans le jeu. Genre voilà, je suis tout, tu sais, ça faisait un petit peu voilà, donc cette espèce survie, on peut pas, il faut que voilà, je suis se démerder quoi, et il y a personne qui va te donner un coup de main. Et c'est pas un jeu de c'était un jeu d'action certes, mais on était vraiment genre seul contre le reste. C'était ça qui je trouvais intéressant. Maintenant voilà, il change un petit peu de formule dans le jeu. Je sais pas, j'espère que ça va pas être un petit peu casser la série quoi.
Ok. Bon, on va parler maintenant d'Assassin's Creed 3. Et attends, j'ai marqué quelque chose en note. Ah oui, la vidéo bullshit de la semaine. ATH, veux-tu nous parler de la vidéo de gameplay bullshit d'Ubisoft?
Et donc voilà, on voit de ils nous disent que donc c'est la première vidéo de gameplay, mais pour moi on voit beaucoup trop de cinématiques à mon goût. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Bah. Moi je sais pas, on me dit c'est du gameplay, le problème c'est que j'ai pas l'impression que c'est du gameplay. Bon en même temps moi je veux bien leur laisser le bénéfice du doute, hein. Si ça se trouve, bon le jeu déchire vraiment sa race, mais je sais pas, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop mis en scène pour être vrai, quoi.
Peut-être, oui, bien, si c'est du gameplay, je trouve que les mecs qui ont fait la vidéo, les plans de cadrage de caméra sont vraiment très, très forts. Pour, non, franchement, c'est que si c'est une vidéo
La
de gameplay,
caméra déchire, elle déchire
voilà,
sa
c'est
race.
que quand tu regardes quand tu regardes donc le trailer, c'est
Ouais.
que c'est vraiment, je sais pas, on dirait c'est comme si c'était une cinématique du jeu. Après, peut-être que c'est, je sais pas, les mecs de Ubisoft, ils sont vraiment super forts pour, ils ont choisi les meilleurs angles de caméra et que c'est vraiment une vidéo in-game. Mais je sais pas, en tout cas, le jeu, ce qu'on peut dire d'un point de vue graphique, c'est que par rapport aux deux autres, il y a une évolution graphique par rapport aux autres, même dans les cinématiques, parce que le premier Assassin's Creed sur la Xbox et PS3, quand ils sont sortis, ils avaient vraiment une petite baffe. Après, le 2, le 3 et, enfin, le 2 Révélation et Brotherhood, c'était un peu plus mitigé. Mais je sais pas, en tout cas le Assassin's Creed 3, moi c'est une série que j'affectionne particulièrement, plus pour son scénario, et j'espère que celui-là ça va nous apprendre vraiment quelque chose en plus, parce que j'en ai marre de tourner en rond après les deux derniers épisodes. Il faut que voilà, j'ai l'impression que depuis Brotherhood la série s'enlise un petit peu et essaye de faire un peu plus de fric chaque année en sortant un épisode voilà, qui est sorti sans qui a pas été vraiment, je sais pas, on dirait que c'est un épisode qu'ils ont sorti, voilà, genre juste pour dire en attendant on va vous sortir un épisode entre deux. En tout cas, ce qu'on a vu dans cette vidéo de gameplay, d'un moment c'est l'assassin donc qui descend d'un arbre et qui pend à la corde avec quelqu'un qui doit affronter. Il le pend à un arbre avec donc il l'étrangle en fait, et le mec il se retrouve
Ouais.
pendu à un arbre. Et si on peut vraiment faire ça dans le jeu, j'ai envie de dire putain, c'est le jeu, il va défoncer sa maman quoi.
Bah, ça ressemble quand même pas mal à Batman, ce passage-là, je trouve.
Oui, bah dans Batman c'était super, d'ailleurs on m'amusait à faire super longtemps. Mais donc là
Non mais
c'est
c'est juste pour dire que bon voilà quoi, ça a déjà été fait ailleurs quand même. Mais ce qui est impressionnant c'est qu'ils arrivent à faire rendre ça dans un environnement assez ouvert et tout. Alors dans Batman, bon voilà quoi, t'avais la gargouille qui est là, ok, t'as le truc qui est là. Là franchement je trouve qu'ils ont. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Hein.
bah dans Batman de Batman, je trouve que c'était super bien moment fait. D'ailleurs Batman c'était pour moi c'était l'un des meilleurs jeux de l'année dernière, parce que vraiment quoi, déjà un jeu de licence qui arrive à une telle prouesse et qui met une baffe à plusieurs jeux de ce style, c'était vraiment super bien fait. Dans Batman ce côté-là j'avais vraiment apprécié d'être le prédateur. Et donc pour revenir à Assassin's Creed, ce que je trouve aussi, qu'au bout d'un moment on voit que notre assassin court et saute par une fenêtre pour sortir par l'autre côté de la fenêtre, en fait.
Ouais, il traverse un immeuble.
Voilà, et donc ça, apparemment, d'après les premiers retours, ça sera, on pourra le faire dans le jeu. Et je trouve que ça va apporter un plus assez cinématographique de, à l'expérience de jeu. Et voilà, donc Assassin's Creed 3, je l'attends vraiment et j'espère que ce jeu va envoyer du pâté.
Ouais. Bon, par contre, s'il vous plaît, j'aimerais quand même voir de vraies vidéos de gameplay avec la vraie interface du jeu. Parce que, bon, là, franchement, très honnêtement, bon, je pense quand même que techniquement, c'est ce qu'on aura dans le jeu. Parce que c'est pas non plus, voilà, tu vois que, certes, ils ont choisi les angles de caméra, mais bon, je veux dire, sur le plan strictement technique, c'est faisable, quoi, sur une console d'aujourd'hui. Mais vraiment, les caméras, c'est juste du foutage de gueule, quoi. Tu vois bien que les mecs, ils ont choisi leurs angles de caméra et tout. Faut arrêter 5 minutes, quoi.
Bah ouais, mais moi j'ai envie de dire, pour la vidéo de gameplay, ton vœu sera bientôt exaucé à l'E-Cube, j'ai envie de dire.
Ouais. L'E-Cube. Putain, qu'est-ce qu'il est nous chercher ce nom pour moi. Oui, bon, ok, t'es fidèle au nom, mais s'il te plaît, évite.
Désolé mec, c'est mon accent américain.
Ouais, t'es trop fort. On va en parler des cubes, ça fait beaucoup trop d'ailleurs, ou de cubes pour faire pour coller à notre très cher ami. Et on va parler des annonces Square Enix pour le 3. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir comme jeu Square Enix à le 3, mon cher TH?
Alors on aura du Tomb Raider, du Hitman Absolution, Sleeping Dog, Quantum Conundrum, Heroes of Ruin, Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance et Terra Dream Final Fantasy.
Bon, personnellement, celui que j'attends surtout, c'est Tomb Raider. Et toi, TH?
Moi, celui que j'attends le plus, c'est... Il y a du Tomb Raider, mais celui que j'attends vraiment le plus, c'est Hitman Absolution, parce que la série Hitman est vraiment super, ça m'a fait rêver depuis le premier. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je l'attends plus parce que comme je suis fan de la série, mais j'ai un petit peu peur parce qu'avec les vidéos, tout ce que j'ai vu, ça avait l'air un peu plus action.
Ouais, non, moi je sais pas, pour moi un Hitman où tu vois à travers les murs, ça s'annonce mal, hein.
Ça, déjà je l'utiliserai pas pendant le jeu, ça c'est clair et net. Mais j'espère vraiment que ça sera toutes les vidéos que j'ai vues, les séquences d'action, ça sera vraiment un plus et que ça sera pas vraiment dans le ça sera pas vraiment le jeu vraiment j'ai pas ça sera pas vraiment un TPS quoi. J'ai vraiment envie que ça soit le Hitman comme j'avais aimé. Donc voilà, j'ai un peu peur pour ce jeu là. Mais bon, comme je suis fan de la série, je l'attends, mais j'ai quand même une crainte quoi par rapport à ce jeu là. Et okay. Voilà, donc j'espère vraiment que Square Enix va pas foutre la merde avec cette série parce que ça va pas le faire, quoi.
Bon, ensuite, on va passer aux dates, n'est-ce pas? Alors, BioShock Infinite reporté, hélas, et c'est reporté en février 2013. Alors, je sais pas, il y a eu une sombre histoire de multijoueur, je crois, déjà. Et franchement, si c'est pour ça que ça a été reporté, j'ai envie de dire, dites les mecs, vous êtes bien gentils, mais le multijoueur de BioShock...
Bah, surtout que, dans BioShock 2, je crois que les serveurs étaient vides, je crois, un mois après la sortie du jeu.
Et ensuite, je crois qu'il y a eu des annonces par rapport à BioShock Vita. Pourrais-tu nous en dire plus?
Bah, alors, BioShock Vita, ça serait, déjà, premièrement, BioShock Vita, ce serait un titre exclusif à la console de Sony portable, j'ai envie de dire. D'où le titre. Et, ça se déroulerait, donc, apparemment, de ce que j'en ai vu, à Rapture. Mais ça serait ni un remake, ni, ça serait vraiment un jeu à part entière. Dans Rapture. Et ce qui est intéressant, c'est donc BioShock Infinite est repoussé, mais BioShock Vita serait peut-être en avance.
Super.
Donc j'ai envie de dire qu'est-ce qui se passe.
Ouais. Bon, bah écoute, affaire à suivre. Mais moi, ça me fait quand même un peu beaucoup chier parce que BioShock Infinite, en tout cas, c'est un jeu que j'attendais beaucoup. Oui, donc pour terminer, un autre jeu que j'attends énormément, qui est probablement le jeu que j'attends plus cette année, c'est Dishonored. Dishonored débarquera le 12 octobre. Bon, allez, on va passer à notre jeu du moment. Et le jeu du moment, écoutez, ça va être un test rétro, n'est-ce pas? C'est un jeu qui est sorti en 1999. Et ça s'appelle King of Dragon Pass. King of Dragon Pass. Alors, je suis assez emmerdé pour vous présenter le jeu parce que c'est vraiment un jeu assez particulier. Grosso merdo, pour vous donner une idée, c'est une espèce de mix entre un jeu de gestion et un livre dont vous êtes le héros. Je rappelle, donc, un livre dont vous êtes le héros, c'est, en gros, vous avez plusieurs choix, vous avez un texte, à la suite de ce texte, vous avez plusieurs choix, et en fonction de ce choix, il y a des conséquences différentes, quoi. Et le principe de King of Dragon Pass est exactement le même. En gros, c'est, vous allez avoir toute une phase gestion, vous allez gérer vos vikings, n'est-ce pas? Et en fonction de ces choix, vous allez avoir des events qui vont popper comme ça. Et dans ces events, en fait, il va y avoir du texte. Et en fonction des choix que vous allez faire, il y aura des conséquences différentes. Alors, pour vous présenter un peu l'univers de King of Dragon Pass, c'est un jeu, pour ceux qui connaissent, qui se déroule dans l'univers du jeu de rôle Glorantha. Jeu de rôle papier, je précise. Et Glorantha, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un jeu de rôle nordique. Ça a une esthétique vraiment originale et très particulière. Ça me rappelle un peu aussi ce jeu dont je vous ai parlé récemment, là, le projet Kickstarter, là, comment il s'appelle? The Banner Saga. Donc j'ai adoré, les visuels en font vraiment une ambiance très très unique, et en gros ce qui va se passer, donc je vous explique un peu comment s'organise le jeu, n'est-ce pas? En fait vous avez une espèce de hub central, où vous avez une espèce de pierre où il y a différents symboles gravés dessus, et en fait chacun de ces symboles représente une action à faire, c'est-à-dire par exemple il y a un symbole qui représente tout l'aspect diplomatique du jeu, donc si vous cliquez dessus vous allez arriver dans un menu où en forme de papyrus et tout, c'est vraiment des menus très très stylés, d'ailleurs je t'avais montré des images à TH, c'était vraiment, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vraiment très très joli.
Bah moi ce que j'en pense c'est que ça le menu en fait il s'adresse parfaitement à l'univers du jeu, c'est pas un genre un menu où il y a, c'est en fait c'est une liste avec des inscriptions écrites, c'est vraiment des genre une petite statue, une petite un petit comment ça s'appelle, un petit menhir comme ça là, avec ouais. les petits genre les signes qui correspondent en fait à chaque action. Et moi je trouve ça c'est vraiment superment implémenté dans le jeu et ça renforce encore plus l'immersion, tu vois. Ça me rappelle un petit peu tu sais les BD, tu sais un style assez cartoon, tu vois dans les ouais. Designs des personnages, ça me fait penser à des BD comme la BD 13. Je parle juste d'un point de vue graphique, je parle pas d'un point de vue du dessin, je pense que c'est pas le même ouais. Univers du tout, ça a rien à voir, mais ça me fait penser un petit peu à ça, comment les menus sont présentés, les personnages, comme les dialogues que j'ai pu voir, ça me fait penser un peu à ce style-là.
Ouais. Donc, on pourrait croire comme ça, livre dont vous êtes héros, donc ça va être un jeu simple et tout, pour ne pas dire simpliste. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est quand même assez touffu, on va dire. Vous avez beaucoup d'options au niveau de la gestion. Donc, je vous explique, vous avez le commerce, vous avez la guerre, vous avez tout ce qui est gestion de la bouffe, etc. Vous avez aussi tout un volet exploration, où vous allez pouvoir explorer pour découvrir des reliques qui vont donner des bonus à votre clan. Vous avez aussi un menu pour aller piller les autres peuples, etc. Bref, c'est très très complet au niveau de l'aspect gestion. Et en fait, le seul reproche que je lui ferais à ce niveau-là, c'est qu'en fait, au début, tu piches pas grand-chose, en fait. t'as tellement de... C'est tellement touffu et il y a tellement peu d'explications, en fait, que t'es un peu paumé. Et au départ, t'as l'impression que le jeu est assez aléatoire, en fait, dans les événements qui se passent. Mais en fait, plus tu vas jouer, plus tu vas te rendre compte qu'en fait, le jeu réagit vraiment en fonction de tes actions et que va vraiment falloir la jouer fine, quoi. Petit exemple, ce jeu se déroule au tour par tour, n'est-ce pas? Donc à chaque fin de tour, vous allez mettre fin à une saison. Donc les saisons, c'est en gros, grosso merdo, il y a le printemps, l'été, le début de l'hiver, l'hiver vraiment vraiment dur, et la fin de l'hiver. Il y a l'automne aussi. Et en fait, à chaque fois que vous allez mettre fin à un tour, vous allez avoir un event qui va popper comme ça. Et le truc, c'est que en début d'année, vous aurez eu un écran qui va vous dire, avec des espèces de chamans un peu sous acide, qui vous expliquent, en gros, qui ont eu des visions et qui vous expliquent ce qui va se passer pendant l'année, quoi. Par exemple, ils vous disent, oui, les chamans ont vu des signes très étranges, apparemment les récoltes, il va y avoir des problèmes, etc. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous n'avez mis aucun point, genre pour vénérer la déesse de la récolte, ben vos récoltes vont être très mauvaises. Et du coup, quand vous arriverez à la fin de la période où où votre clan aura fait ses récoltes, vous n'aurez pas assez de récoltes pour passer l'hiver, quoi. Vous n'aurez pas assez de bouffe. Et donc vous serez un peu dans la merde, et vous serez obligé d'aller faire du commerce avec les clans voisins, etc.
Mais ce que j'ai envie de savoir dans le jeu, c'est comme t'as dit, ça se déroulait en fait au tour par tour tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas comme dans les RPG quoi. C'est pas comme les RPG japonais
Ah
là.
non non mais c'est un jeu, c'est comme dans un jeu gestion. Ça c'est vraiment un jeu gestion. Un peu comme les, enfin, je sais pas, un Galactic Civilization dans un tout autre genre, etc. Vous avez un bouton fin de tour, et pendant le tour, il se passe des trucs, quoi. Genre, donc, j'explique, à chaque fois que vous faites fin de tour, par exemple, t'as le niveau de bouffe qui va baisser parce que tes paysans mangent les réserves de bouffe, quoi. T'as ton niveau parce que tu peux manufacturer des biens, etc., pour les revendre ensuite. Ça, si t'as mis suffisamment de personnes dessus, ça va augmenter, etc. Un autre aspect du jeu, outre tout l'aspect gestion, qui est vraiment très très complet et excellent, et franchement, je pense que si vous aimez ce genre de jeu, vous allez prendre votre pied dessus, c'est tout l'aspect vénération des divinités, en fait. Donc je l'ai dit, King of Dragon Pass se déroule dans l'univers de Glorantha. Et dans Glorantha, c'est vraiment un univers très particulier, assez unique, où il y a des hommes canards. Enfin, c'est vraiment, même les elfes, ils sont pas, c'est pas comme les elfes de d'habitude, quoi. Les elfes dans Glorantha, c'est des espèces d'hommes plantes, etc. Bref, c'est un univers vraiment unique et très intéressant. Et donc vous avez toute une série de divinités à vénérer. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que si vous négligez trop certaines divinités, parce que chaque divinité, vous allez pouvoir créer un autel, en fait, et en gros, vous allez devoir faire des sacrifices pour découvrir de nouveaux pouvoirs, parce qu'une divinité peut vous accorder des pouvoirs. Par exemple, le dieu du tonnerre va pouvoir t'apprendre un sort qui va te permettre... genre durant les batailles avec les ennemis, tu vas pouvoir utiliser ce sort pour battre tes ennemis. Alors la déesse de la chasse va pouvoir permettre bénir tes chasseurs pour qu'ils récoltent plus de bouffe, etc. La déesse des vaches, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est permettre à tes vaches de faire plus de bébés. Et donc, ensuite, ça va te faire un troupeau de plus en plus important que tu vas pouvoir revendre. Sachant que les vaches sont très importantes dans l'univers de Glorantha, parce qu'en fait, le troupeau fait partie des sacrifices pour entretenir non seulement pour les quêtes, mais aussi pour entretenir les temples, etc. Bref, c'est un jeu où l'aspect vénération des divinités est très important, et où il ne va vraiment pas falloir négliger une divinité, en tout cas ne pas trop la négliger, ou alors si vous la négligez, il va falloir compenser cet aspect en bossant bien toute la partie gestion pour parce que sinon, le truc, c'est que si vous négligez trop une divinité au bout d'un moment donné, Elles sont assez capricieuses, elles imitent dans Glorantha, quoi, elles ont tendance à vous maudire, etc. Bref, elles sont vraiment assez casse-couilles. Et donc, il faut vraiment que votre tribu soit très très forte pour pouvoir contrer cette divinité-là. Ou alors il va falloir que vous ayez demandé à une autre divinité son aide pour que, voilà quoi, pour que ses pouvoirs contre celle de la divinité qui vous en veut. Et bref, déjà là, voyez, rien que cet aspect-là, ça fait 5 minutes que j'en parle et c'est assez complet, quoi.
Toi, le jeu, tu le fais sur, tu l'as joué sur PC, c'est ça? Parce
Ouais.
que là, il est ressorti sur iPhone, en fait.
Ouais.
Et je voulais savoir. Donc, toi, le jeu était totalement, en fait, était pas traduit, en fait, hein, il était qu'en anglais.
Oui, il est
Reçu.
en anglais.
D'accord. Et je sais pas si tu sais, est-ce que sur iPhone, il est traduit ou pas?
Je ne connais pas du tout la version iOS. Je sais qu'effectivement elle est sortie l'année dernière, mais non, je ne connais pas du tout. Ensuite, il y a un autre aspect de la vénération divinité qui est importante, mais ça, c'est pour le coup l'aspect du jeu qui vraiment ressemble le plus à un livre dont vous êtes le héros. Il faut savoir que dans ce jeu-là, vous avez un conseil qui va diriger votre clan, et dans ce conseil, donc, vous allez devoir choisir des personnages. Et parmi toute une galerie de personnages qui sont en gros des figures prédominantes de votre clan. Et en gros, chacun de ces personnages, bon, c'est pas des statistiques, c'est juste, par exemple, t'as un personnage, on va dire, alors lui, il est très bon en diplomatie, lui, il est reconnu dans le monde entier pour être un excellent commerçant, lui, c'est un gros noob en magie, et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir sélectionner certains de ces personnages pour les emmener dans des quêtes mystiques, en fait. Et ces quêtes, en gros, ce sont des... Alors, en gros, tu comprends que les mecs, ils prennent de la drogue et qu'ils ont des visions du passé, quoi.
Ils prennent de la drogue,
Et...
vraiment?
Ouais, enfin, c'est un peu comme, tu vois, les prêtresses de l'Antiquité grecque, quoi.
Ah, d'accord, ouais.
Tu sais qu'elles se droguaient pour avoir leur vision, quoi.
Ah, tu veux un
Et
bout de
bon,
cheat?
même si c'est pas dit explicitement, tu le comprends très clairement que les mecs ils se droguent pour faire leur pour planer un peu et avoir leur vision, quoi.
Et est-ce qu'il y a
Et
des
en gros,
dealers?
non non, voilà. Et en gros, vous allez pouvoir avoir des rêves. Et en fait, dans ces rêves, vous allez pouvoir revivre des périodes mystiques de l'histoire du monde de Glorantha. Vous allez côtoyer les dieux. Vous êtes dans le monde des dieux. Et en fait, ces espèces de quêtes mystiques qui, pour le coup, ressemblent vraiment à un livre dont vous êtes le héros, mais vraiment, vraiment, là, c'est vraiment l'aspect du jeu qui ressemble le plus à un livre dont vous êtes le héros, elles vont vous permettre d'accomplir certains objectifs et d'avoir des bonus. Alors, ces bonus, en fait, dépendent de la divinité. Par exemple, je sais pas moi, la déesse, le dieu des négociateurs, par exemple, l'un de ces bonus de sa quête, parce qu'il y en a plusieurs, hein, ça va être pouvoir se réconcilier avec un clan avec qui t'es en guerre, tu vois. Parce que c'est quand même un jeu où c'est assez compliqué de se réconcilier avec des clans. Ça coûte très très cher au niveau parce que tu peux faire des dons, etc. pour te réconcilier. Donc pour se réconcilier, ça coûte très cher. Et du coup, ce que tu peux faire, par contre, c'est envoyer un de tes personnages sur l'une de ces quêtes. Et s'il réussit la quête, parce que tu peux l'échouer, hein, attention. Et s'il réussit la quête, à la fin de la quête, tu seras réconcilié avec ce clan-là. Et donc, durant cette vision mystique, comme dans un livre dont vous êtes le héros, tu vas avoir du texte très très bien écrit d'ailleurs, je précise, c'est vraiment excellemment bien écrit, t'es à fond dedans, quoi. Et en fonction de tes choix, donc, tu vas te retrouver dans certains embranchements. Des fois, ton personnage va échouer. Mais on va donner une occasion de le sauver, parce qu'il faut savoir que tes personnages peuvent mourir, hein, attention, Si tu les envoies là-dedans et que genre c'est un chef de clan très très important qui fait partie de ton conseil, tu peux le perdre le perso. Donc c'est un truc, faut y faire très attention. Donc tu vas pouvoir des fois avoir l'occasion de le sauver s'il a échoué, mais tu peux aussi réussir la mission et à ce moment-là, ben tu vas avoir ton bonus quoi. Sachant qu'il y a, y a plusieurs cas de figure, il y a aussi le cas où tu échoues, mais en gros tu vas avoir un gros malus et tu vas perdre tous tes points, les points de magie de ton clan, et quand tu sais à quel point les points de magie sont très importants dans ce jeu-là. Enfin bref, c'est vraiment tout un aspect vraiment assez complexe. En plus de ce que j'ai compris, je vous avoue, j'ai pas saisi toutes les subtilités des mécaniques du jeu. Mais en gros, les statistiques du personnage sont très importantes. C'est-à-dire que bon, si t'envoies un gros bourrin sur les sur une mission où il vaut mieux être avoir un fin négociateur, même si tu fais le bon choix de dialogue, il va planter quoi le mec. Alors est-ce que tu as des questions par rapport à ça aussi?
Bah, j'ai envie juste de savoir à quel type de joueur tu pourrais conseiller ce genre de jeu.
En gros, bah c'est un jeu pour les fans de jeux de gestion. Vraiment, vraiment, il est très, très complet à ce niveau-là. Et c'est aussi un jeu pour ceux qui, tous ces gars-là qui ont apprécié les livres dont vous êtes le héros durant leur enfance et qui cherchent un jeu qui offre vraiment une expérience assez similaire. Alors, je vous ai pas décrit toutes les mécaniques du jeu parce que vraiment, il y en a encore pour 3 heures, mais c'est vraiment un jeu qui est très, très complexe. C'est un jeu où, bon, un peu comme dans tous les jeux de gestion, en gros, bon, l'idée, hein, c'est que c'est soit la victoire où tu vas battre tous tes adversaires, soit la victoire où tu arrives à avoir une alliance avec tout le monde. Oui, parce que en fait, le jeu se déroule en 2 temps, en fait. La première phase, c'est monter ta tribu, et une tribu, en fait, c'est une alliance entre plusieurs clans. Et la seconde phase du jeu, c'est devenir le roi de la passe du dragon. Parce que c'est là où vous êtes, hein, l'endroit où vous êtes, c'est la passe du dragon. En fonction des choix que tu as fait en commençant le jeu peut très bien s'arrêter à la phase tu montres ta tribu. Ou si vraiment tu veux jouer des heures et des heures et des heures et des heures, tu peux mettre l'option aller jusqu'à devenir roi, quoi. Parce qu'il faut en être bien conscient. Ça, c'est un jeu qui est très, très, très long. Il y a des possibilités vraiment infinies dans ce jeu. Parce qu'il y a, y a des events aléatoires qui vont popper comme ça, eux aussi très, très bien écrits. Ou genre, il y a un peu là. Alors bon, ça a pas tout à fait grand-chose à voir, mais tu vois les events aléatoires, genre dans SimCity, tu vois, t'as une catastrophe qui te tombe sur la gueule, etc. T'as un tsunami,
Ouais.
tu vois un peu ce que je veux dire.
Ouais, je vois ce que vous voulez dire.
Alors un truc un peu comme ça, tu vois, sauf que c'est vraiment avec du texte très bien écrit, comme dans un livre dont vous êtes le héros, et sauf que c'est sous la forme de choix à la Mass Effect, tu vois. C'est alors là, en gros, il y a un mec qui vient pour qui a assassiné l'un des membres de ton conseil, tu vois. Et alors qu'est-ce que tu fais? Alors tu enquêtes et tout. Tu te rends compte, ah ouais, mais en fait, c'est des mecs qui venaient de ce clan-là. Alors est-ce que tu laisses couler ou est-ce que tu laisses ou est-ce que tu leur fais la guerre? Ou alors malheureusement, tu as fait le mauvais choix. Et tu sais pas de quel clan venaient les mecs. Du coup, est-ce que tu attaques un clan au hasard? Parce que bon, quand même, t'es un clan assez violent et quand même, il faut te faire respecter, quoi. Mais au risque d'attaquer un clan qui n'avait rien à voir dans cette histoire. Enfin, bref, je sais pas si je rends justice au jeu là, mais c'est un jeu où vraiment, d'une partie à l'autre, il y a tellement d'events aléatoires, il y a tellement de trucs très bien écrits dans ce jeu. Que tu ne vas pas du tout avoir la même expérience, sachant qu'en plus qu'au début du jeu, tu vas devoir construire l'histoire de ton clan en fait, et en fonction de cette histoire que tu as construite, le jeu ne va pas du tout réagir de la même manière quoi. Genre par exemple au début du jeu, on te dit ouais alors est-ce que t'es à un moment donné il y a les dragons il faut savoir que dans l'univers de Glorantha les dragons c'est vraiment des gros gros bâtards et il y a les dragons qui sont venus parler à ton clan Est-ce que ton clan est resté neutre? Est-ce que ton clan a pactisé avec eux? Ou est-ce que ils leur ont fait la guerre, quoi, grosso merdo. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant le jeu, il va y avoir des events aléatoires comme ça, où des dragons seront impliqués. Et en fait, si tu choisis de pactiser avec les dragons, alors que tes ancêtres avaient choisi de d'être leurs ennemis, bah tu vas avoir des malus, tu vois, parce que les ancêtres ils sont pas contents, et que les ancêtres c'est très important dans l'univers de Glorantha, et du coup les ancêtres ils vont pourrir parce qu'ils prennent très mal que tu pactises avec des dragons, quoi. Enfin bref, pourquoi je vous ai parlé de ce jeu cette semaine? Parce que pour moi, plus je joue à ce jeu, plus j'ai l'impression d'avoir affaire à un jeu culte. Ce jeu est absolument énorme, c'est une perle, je l'ai dit, c'est une perle du jeu de gestion. Il y a tout un aspect livre dont vous êtes le héros, roleplay, qui est absolument passionnant. Et en plus, il y a une direction artistique qui déchire sa race. C'est un jeu qui est très très complet, qui est très très long, qui est très complexe. Et en fait, c'est un jeu qui est sorti à la fin des années 90, en 1999 pour être exact. Et je sais pas, c'est un jeu apparemment qui... alors il y a quelques passionnés qui connaissent ce jeu, notamment sur les forums de nos amis de Canard PC. D'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai découvert ce jeu, et un grand merci à eux. Et vraiment, pour moi, ce jeu est une perle du jeu de gestion. Et si vous aimez les jeux de gestion, et pour peu que tout l'aspect roleplay ne vous rebute pas, allez-y, foncez, foncez, parce que c'est vraiment un jeu très très complet. Je répète, King of Dragon Pass, c'est sur PC, et il y a une version iOS que malheureusement je n'ai pas pu tester, mais elle est disponible depuis l'année dernière sur l'Apple Store. Voilà, c'est tout pour notre jeu du moment. On va passer au point culture, et bah écoute, ATH, c'est toi qui t'y colle, et tu vas nous parler de quoi cette semaine?
Je vais vous parler de la série télévisée Dexter.
You know what? Things are good. Most people get all angry about going to work, the grind, just living for the weekend and all that. Not me. Nope. I enjoy what I do. Yeah, contributing the only way I know how. There's no place I'd rather be. Nothing else I'd rather be doing. This is what life's all about for me. And I only really feel like myself when I'm surrounded by blood.
Donc Dexter, c'est une série qui en fait qui est lorsqu'elle est sortie, elle était ça se voyait pas beaucoup, même d'ailleurs aujourd'hui ça se voit toujours pas beaucoup. En fait, on voit un mec et il est pas vraiment le personnage en fait, le personnage principal qui est Dexter n'est pas vraiment très très gentil en fait. Enfin,
C'est le moins qu'on puisse dire.
en fait, c'est un mauvais gentil, j'ai envie de dire. C'est voilà, parce qu'en fait le synopsis, c'est que donc notre personnage est un, enfin notre personnage c'est pas un jeu, mais le personnage qui est à l'écran est un expert en médecine légale qui travaille donc pour la police de Miami. Et donc son travail, c'est d'analyser les traces de sang. Et ce qu'il fait en fait, ça c'est pendant sa journée. Et un peu comme Batman, à la nuit tombée, il devient un tueur en série. Mais ce qui fait en fait c'est un tueur en série, mais il tue pas n'importe qui. Et ses victimes, en fait, toutes ses victimes, c'est qu'ils ont, c'est aussi d'autres tueurs, ce soit d'autres tueurs ou des personnes en fait mauvaises pour la société. C'est ça qui va, il va se forcer en fait à tuer que des mauvaises personnes. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en lui, il a une pulsion meurtrière qui il a une soif de meurtre et il aime vraiment ça. Et il peut pas se contrôler. Et donc tout le pitch, ça va être de qui va essayer de donc de tuer les gens, mais sans jamais se faire repérer. Et comme il travaille aussi en même temps sur la comme il travaille en même temps à la police de Miami qui enquête sur ces tueurs en série, il va tout faire pour écarter en fait les gens de sa piste et essayer de retrouver le tueur grâce à tous les éléments d'enquête qu'il a pu obtenir directement grâce au poste, mais il va essayer de mettre les enquêteurs sur une fausse piste pour aller tuer lui-même la cible, pour pas qu'il le retrouve en fait.
Donc en gros, si pour résumer, le mec a deux objectifs. D'un côté, c'est leurrer ceux qui sont à sa poursuite pour qu'ils aillent voir ailleurs s'il y est, quoi, pour qu'il
Voilà.
laisse tranquille. Et de l'autre côté, donc, c'est traquer les tueurs.
Voilà, c'est ça. Et ce qui est intéressant en fait dans le personnage de Dexter Morgan, c'est c'est un personnage en fait assez particulier, parce qu'en fait il a du mal à ressentir la moindre émotion en fait. Ça veut dire même en fait dans la série, il a une copine tout ça, qui et en fait il sort avec une fille juste parce que en fait ça pour être plus normal. Mais en fait lui, il en a carrément rien à foutre. C'est juste en fait une couverture qu'il a en fait. C'est juste pour voilà, c'est juste j'ai une copine comme tout le monde, nanana, nanana. Mais des fois, elle lui dit je t'aime, tout ça, et lui, en fait, ça se voit vraiment qu'il en a rien à foutre et tout, tu vois ce que je veux dire?
Mais du coup, justement, est-ce que ça fait crédible ça? Parce que je veux dire, s'il en a autant rien à foutre que tu le dis, elle doit bien s'en rendre compte quand même à un moment
Là,
donné
parce qu'en
que.
fait, lui-même, quand il est avec elle, il joue la comédie, en fait.
Ouais.
C'est en fait, Dexter Morgan est un personnage qui joue la comédie tout le temps, dans la vie de tous les jours. Il y a que quand il tue des gens qui ne joue pas de l'acteur, qui n'est pas acteur, en fait. La seule chose qu'il
Ouais.
fait, c'est il tue, et là c'est là qu'il prend son plaisir, et pendant tout ce qu'il va faire, c'est même avec sa famille, ses amis, des fois les gens ils vont dire viens, je vais payer une bière, tout ça, nanana. Lui, il n'a rien à foutre, il dit vas-y, laisse-moi, je vais rentrer chez moi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la voix off du personnage qui en fait sont ses pensées, et on sait ce qu'il ressent et tout ça, et c'est ça qui est vraiment fort. Mais des fois apparemment il va dire sa copine va venir, il va dire vas-y, prends-moi dans tes bras. Il va dire ah non
Qu'est-ce que tu me fais
putain, voilà, il va dire ça
chier?
dans sa tête, il va dire ça. Et après, genre, quand tu vas le prendre, c'est vrai, il va dire, oh, tu vas manquer, chérie, tout ça, tu vois. C'est ça que j'avais envie de dire. Et donc, ce qui est vraiment super intéressant, bah, comme j'ai dit, c'est un personnage qui joue, en fait, un double jeu. Et, donc, un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, il a deux côtés. Le côté devant tout le monde, il paraît bien, c'est un homme, voilà, il fait son travail, nanana. Et que le soir, la nuit venue, bah, c'est qu'il va laisser la patte qui est en lui et elle est traquée. Et des fois, quand il tue pas des gens, pendant deux trois épisodes, quand on a vu la tuer personne, ben on dirait il va être vraiment étrange comme un camé qui a besoin de sa drogue, quoi, en fait. Et donc il va falloir absolument qu'il tue. Et donc
Alors.
et ce qui était très intéressant en fait, c'était que quand il était petit, parce que c'est en fait son père est un dans la série c'est un son père il a Dexter Morgan était adopté, et il s'est rendu compte
Attends,
que
rassure-moi, t'es pas en train de spoiler là.
non, je suis pas en train de spoiler parce que c'est là on est à la 6e saison et là c'est vraiment le début du c'est vraiment au tout début qu'on apprend ça quoi, c'est pas vraiment du spoil.
Ah, y a peut-être des gens, justement, après, comme c'est destiné à ceux qui n'ont pas encore vu la série,
Non mais ça c'est vraiment on va dire c'est pas un spoil, c'est pas un spoil parce que les spoils je veux pas vous en parler spécialement parce que j'ai pas voulu gâcher l'effet de surprise si vous comptez regarder la série. Mais c'est pour ça que là je m'attarde vraiment sur la première saison et je vais pas continuer à développer plus le sujet. Et là ce que je vous dis c'est que qu'il a été adopté tout ça, c'est ça se voit dans le premier épisode, c'est pas un spoil, c'est le début, c'est vraiment dans le synopsis de base quoi, même si vous allez taper sur si vous allez sur Allociné tout ça pour voir la description, c'est même écrit dans le descriptif. Donc il n'y a pas de spoil, vous inquiétez pas pour ça. Et ce qui est très intéressant, ce que je voulais dire, c'est donc qu'il a été adopté. Et que son père adoptif faisait partie de la police de Miami, et c'est un peu une légende en fait. Et qui en fait quand il était petit, il s'est rendu compte que Dexter était un tueur parce qu'il avait cette capacité que les meurtriers ont. Et comme lui c'est un peu un enquêteur tout ça, il savait. Et donc il a appris à tuer en fait au début quand il était enfant des animaux. Donc il allait tuer des chats, des chiens, des voisins qu'il n'aimait pas, et il allait les tuer en fait. Et
D'accord.
donc voilà, c'est vraiment ça, c'est le personnage, même s'il n'a pas vraiment d'émotion tout ça, et moi je trouve qu'il est vraiment attachant parce que des fois il y a juste des trucs qui nous font bien marrer, alors que à la base c'est pas une série comique, mais ça nous fait bien marrer en fait dans le ton un peu décalé de ses émotions tout ça, c'est vraiment super bien écrit.
Ok, à part ça, je voulais demander, bon, on est d'accord, la série elle est centrée sur le personnage de Dexter, mais
Oui.
est-ce que justement, il y a d'autres personnages qui sont marquants dans cette série? Parce que pour le moment, là, ça m'a l'air un peu exclusif, là, on va dire.
Bah après tout ce qui les personnages ils sont après on est obligé d'avoir une panoplie de personnages secondaires. Donc on a la sœur de Dexter en fait qui travaille aussi dans la police, mais elle qui est vraiment en fait dans la police, elle c'est vraiment elle est dans l'action pure, parce que alors que Dexter lui c'est il est juste médecin, c'est pas même pas un policier, Dexter. Lui, il travaille juste dans la médecine, c'est juste l'analyseur. Alors que elle, sa sœur,
C'est vraiment enquêtrice, quoi.
Voilà, c'est vraiment une enquêtrice. Donc des fois, il aura un peu des dilemmes parce que sa sœur, elle voudra, sa sœur, elle croira avoir trouvé le meurtrier, tout ça. Mais comme Dexter a envie de le tuer, des fois Dexter, il aura un dilemme parce qu'sa sœur, il l'aime bien quand même. Et il voudra savoir, des fois, il voudra lui faire plaisir, mais sans, tu vois ce que je veux dire? En fait, des fois, il aura en fait des choix moraux. Après, on a des.
Donc sa sœur, est-ce qu'on pourrait dire de sa sœur que c'est un peu une sorte de némésis en fait, même si elle le sait pas?
Non, on peut pas dire ça. Parce que sa sœur, en fait, elle va essayer de traquer le tueur, qui est son frère lui-même, et il y aura d'autres tueurs, en fait, aussi. Mais, elle va essayer Dexter, comme il veut pas qu'elle sache son secret, parce que personne ne le sait, en fait. Il va tout faire pour que personne ne soit au courant. Et donc, ça va être vraiment, vraiment très, très fort. Et ça va être un peu cette rivalité, ce duel qu'il va essayer d'entretenir. Ce qui se passe aussi, c'est que comme d'autres personnages intéressants, on a aussi les collègues de sa sœur qui travaillent en fait au bureau de commissariat de Miami. Et il y a un chinois, je sais plus son nom, un chinois qui est un analyste aussi, et qui à chaque fois il sort des blagues vraiment salaces, quoi, des trucs de cul, tout ça, mais alors que il y a des personnages qui sont morts et tout, en fait c'est vraiment glauque, tu vois. Et voilà, et donc lui il est marrant. Et après t'as d'autres personnages qui, j'ai pas envie d'en parler en fait, parce que sinon ça spoilerait, comme on dit. Il y a d'autres personnages qui sont vraiment intéressants, qui évoluent au fil de l'aventure. On a qui vont essayer de mettre il y en a d'autres qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues à Dexter. Ça va être super super intéressant. Il y en a même qui vont découvrir son secret, mais Dexter ne va pas l'avouer, alors que ça va être après, ça va vraiment être compliqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est la qualité de l'écriture, parce que à chaque fois, chaque épisode, on a un élément de la trame scénaristique qui évolue de plus en plus, parce que comme Dexter aussi recherche les meurtriers. Il va devoir enquêter, et ce qui fait qu'on va se découvrir en fait avec des grosses révélations à la fin de chaque saison, à chaque clôture de saison, comme chaque série en fait, on a une grosse révélation qui nous fait avancer le scénario. Et c'est ça, et ça va être vraiment bien, parce que même, je sais pas, dans la série, quand ça évolue, ça fait que, je vais pas trop spoiler, mais Dexter, en fait, il va devenir un père de famille, et patati patata, et ça fait que vraiment sa vision du monde va changer, et que lui, il voudra, en fait, son seul objectif, c'est de mener une vie paisible, mais juste en tuant des mecs qui ont échappé au système judiciaire. Et ça sera vraiment ça son but, alors qu'il y a des gens qui vont venir toujours l'enquiquiner, etc. Et lui, voilà, il va pas être content, et comme c'est un tueur, il va pas trop faire chier, quoi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Dexter, la série télévisée, est adaptée d'un roman de Jeff Lindsay, qui s'appelle, ce roman, il s'appelle Ce cher Dexter. Donc voilà, c'est une adaptation d'un roman, pour ceux qui ont envie de lire.
Ok. Et sinon bon, là dernière question, on en est à la 6e saison.
Voilà.
On sait que bon, voilà, il y a beaucoup de séries. On va dire que sur la longueur, ça n'a pas très bien vécu. Est-ce que au bout de 6 saisons, tu accroches toujours autant?
Bah alors moi j'ai regardé jusqu'à la 5e saison, et puis, parce qu'en fait chaque saison en fait c'est composé en 12 épisodes qui durent à peu près en fait 1 heure, donc ça nous fait 12 épisodes par saison, ce qui est assez correct, je trouve, surtout qu'ils sont d'une bonne durée. Donc on a le temps de on a on, à chaque fois qu'on se pose devant la série, c'est on sait qu'on va prendre du plaisir. On est là, on essaye de résoudre le puzzle en même temps que Dexter. La trame principale évolue bien. Chaque saison nous montre plusieurs aspects de la vie de Dexter, et c'est vraiment une super série que je conseille je conseille beaucoup. Là, il y a la saison 6 qui est sortie, que je vais pas tarder à aller regarder d'ailleurs. Donc pour moi, les 5 premières saisons sont très 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 bonnes. Et voilà, j'espère que ça va pas continuer un petit peu trop, parce qu'après j'ai peur que ça fasse un peu n'importe quoi. Mais voilà, pour l'instant c'est du très bon. Et si vous n'avez jamais regardé cette série, ce qui serait dommage d'ailleurs pour vous, mais ça c'est vraiment une excellente série que je conseille à tout le monde.
Bref, très bonne série, très bon jeu d'acteur, du tout bon quoi.
Ouais, c'est vraiment du tout bon. C'est voilà, comme j'ai dit, c'est je sais pas, c'est une série qui m'a marqué parce que de son point de, le point de vue qu'on a, on suit un tueur en série. D'ailleurs, ça fait quelques polémiques, d'ailleurs, en Suisse, je crois, qui n'ont pas voulu mettre cette série sur leur chaîne parce que, sur leur chaîne du service public, parce qu'ils ont dit que ça, c'est, ça, la morale de la série ne correspondait pas du tout à une chaîne de service public qui devrait diffuser. Mais franchement, voilà, quand on l'histoire, c'est vraiment, elle est vraiment bien ficelée. Dexter, on sent un peu bené et tout ça, parce que on dirait un mec tout gentil, tout mignon, alors que c'est vraiment un putain de psychopathe dans sa tête. Il a vraiment des réflexions de malade en fait. Et voilà, donc c'est vraiment super.
Ok. Bon bah voilà, c'est tout pour les podcasts cette semaine. Alors j'ai eu un communiqué à faire passer, n'est-ce pas? Mordren a été enfin libéré par la police de Scotland Yard, apparemment. Donc il sera de retour parmi nous la semaine prochaine. Ouais!
Youpi! Allez, champagne!
Faites péter le
Sur le
champagne!
compte de Mamie Lamy, parce qu'il n'est pas là.
Un grand merci à Olivao d'être allé négocier directement à Londres avec Scotland Yard pour que notre ami soit de retour. Donc bon, vivement la semaine prochaine, en espérant que ce très cher Mamie Lamy va lâcher Diablo 3 5 minutes pour venir podcaster avec nous, n'est-ce pas?
Ah, il faut qu'il travaille un petit peu quand même, hein.
Ouais, ça serait pas mal. Allez! Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!
Salut à tous!